MC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Kylian Vérov.
Salut tout le monde, nouvel épisode de Basket Time aujourd'hui et on repart sur un hors-série un peu spécial. La prochaine Draft NBA approche à grands pas, vous le savez, ce sera le 26 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn. En attendant, on va vous présenter quelques-unes des pépites françaises, européennes ou américaines qui s'y présentent. Et pour en parler avec moi des experts en jeunes talents, je parle bien sûr du média Envergure, représenté aujourd'hui par Emmanuel Lenevet. Salut Manu.
Salut Ilian.
Pour rappel, l'objectif d'Envergure, c'est de parler des stars du basket avant qu'elles ne le deviennent, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui encore. Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, l'épisode consacré à Zachary Risacher est déjà en ligne, alors foncez l'écouter. Nous, aujourd'hui, on va parler encore d'un joueur qui pourrait être l'un des principaux prétendants au first pick, encore un Français.
Make some noise for Alex.
Inside to Sarr, turn around in the finish. What about the touch from the French next up? Okay, blocked by Sarr. The scouts will love what they see there, and then the seven-footer put the ball on the floor and enabled Jordan Usher. Here comes Cox, all the way in, defers to Sarr. Just dunked it. Alex Sarr with the jam.
Il a longtemps fait l'unanimité au sommet des différents mock drafts. Ça a un petit peu changé depuis quelques semaines, quoique. On va vous parler d'Alexandre Sarr, encore un Frenchie qui pourrait succéder à Victor Wembanyama. Question habituelle, mais inévitable, Manu, pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'Alexandre Sarr, est-ce que tu peux nous décrire son profil et retracer son parcours ?
Alors Alexandre, c'est un intérieur de 2m16, né en 2005, donc 18 ans à Bordeaux. Il commence le basket dans la région toulousaine et très vite, il est repéré. À 13-14 ans, il s'en va au Real Madrid. Donc, il reste en Espagne pendant 2 saisons. Après quoi, il est repéré par la nouvelle Overtime Elite League. Donc, c'est une ligue créée pour concurrencer la NCAA aux États-Unis. Donc, à 16 ans, il va aux États-Unis. Il reste, pareil, 2 saisons en Overtime Elite avant de s'engager en Australie avec Perth, où voilà, un championnat très regardé par les Américains. Donc, beaucoup d'expositions.
Nul doute qu'il sera appelé par Adam Silver, évidemment. Il deviendrait là le 4e joueur français à rejoindre la NBA après une saison dans ce championnat, tu l'as dit, qui mélange l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Après Ousmane Dieng et Hugo Besson en 2022, Ryan Rupert en 2023. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont passés par là, comme LaMelo Ball, le meneur All-Star de Charlotte. C'est un peu la destination phare de ces dernières saisons. Qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Tu l'as dit, c'est extrêmement regardé par les recruteurs. Qu'est-ce que ça vaut ?
Moi, personnellement, ce n'est pas un championnat dont je suis très, très fan. Le niveau n'est pas incroyable. Il permet, par contre, de jouer contre des anciens joueurs NBA, principalement des Australiens, comme Della Vedova, par exemple, qui joue encore. Donc, ça, même si c'est des joueurs qui sont un peu passés, ça compte quand même. Ils ont une expérience NBA, ils ont une expérience dans le basket. Donc, ça compte. Et c'est surtout une ligue, comme je le disais auparavant, très, très supervisée par les franchises NBA. Donc beaucoup d'expositions et c'est ce qui compte aussi pour se faire remarquer.
Par rapport à l'Overtime Elite dont tu parlais, qui est aussi un petit peu un refuge pour prospects et pour futurs talents, tu le classes à quel niveau par rapport à l'Overtime Elite ?
Le championnat australien est quand même bien meilleur, hein, faut pas se leurrer. Il joue dans un championnat professionnel. L'Overtime Elite, c'est une ligue de lycée. Donc c'est des joueurs qui ont entre 15 et 17 ans, donc c'est pas du tout le même niveau.
Ouais, ça permet de se frotter déjà au monde professionnel quand on est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Alexandre Sarr, c'est aussi le frère d'Olivier Sarr, qui est déjà passé par tout ce process et qui enchaîne les allers-retours entre la NBA et la G-League cette saison. Est-ce que ça peut aider Alex, selon toi, à s'intégrer, d'avoir déjà cette vue sur ce qu'a fait son frère et ce qu'a vécu son frère ?
Ça peut. Après, Olivier a eu un parcours bien différent en passant par la NCAA. Il avait décidé de passer par là, par le collège, Wake Forest, puis Kentucky. Après la draft, et là, comme tu dis, il enchaîne les voyages J-League NBA. Donc ça peut l'aider parce qu'il va savoir lui donner les bons conseils pour s'adapter à cette vie NBA. C'est principalement ça pour moi dans le point numéro un dans cette relation qu'il aura avec son frère.
On va parler de statistiques pures. Est-ce que tu peux nous donner les stats d'Alex Sarr cette saison avec les Wildcats de Perth ?
Donc, il a combiné 9 points de moyenne avec 4 rebonds et 1,5 contre. Donc, c'est pour le contre. Il est dans le top 3 de son championnat. Donc, voilà, c'est quand même ça peut paraître peu, mais quasiment 2 comptes par match, c'est énorme. Mm-hmm. Donc en 17 minutes de temps de jeu. Donc il a joué au total 27 matchs. Et comme je l'ai dit en intro, blessé un petit mois à la hanche. Donc voilà, ça lui a fait un peu perdre de vitesse. Il est revenu en fin de saison pour les playoffs. Mm-hmm. Malheureusement, il joue que 2 matchs parce que Peirce est éliminé. Mais c'est 2 matchs où il a joué son jeu et il s'est encore fait remarquer de par ses qualités.
Alors, il s'est fait remarquer avec les Wildcats, mais il s'est surtout fait remarquer lors de 2 matchs d'exhibition. Tu m'arrêtes si je me trompe, il a brillé. C'était justement entre les Wildcats et la G League Ignite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet affrontement et le fait qu'il ait été énormément repéré à ce moment-là?
Comme Victor et les Mets, il y a maintenant quasiment 2 ans, il a fait 2 matchs d'exhibition face au Ignite. Et comme Victor, en fait, le fait que les Américains le voient, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, il a performé face à Ron Holland, qui à l'époque était annoncé comme le numéro 1 à compter cette draft. Et en 2 matchs, il a ébloui tout le monde. Il a cumulé 21 points de moyenne, 8 rebonds et 6 contre. Donc c'est juste incroyable.
Oui, c'est largement plus que ce qu'il produit dans le championnat australien néo-zélandais. Ça a largement contribué à faire grimper sa cote à l'époque. Un mot sur son style de jeu. Comment est-ce que tu décrirais Alex Sarr?
Alexandre, c'est un vrai poste 4. On est face à un joueur qui aime s'écarter, offrir des positions loin du cercle, notamment du 3 points. Ça, c'est venu de plus en plus dans son jeu. C'est un peu plus compliqué près du panier. C'est encore un élément qui va devoir travailler. Et pour le moment, il n'a pas encore non plus le jeu pour s'imposer sous le panier, que ce soit du face-up, du post-up. Il n'a pas encore tous ces moves-là. Et c'est un très, très bon protecteur de cercle, que ce soit dans la dissuasion ou le contre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, 2m16 de haut, 2m23 d'envergure. On est vraiment sur un intérieur dissuasif en puissance. Là, vraiment, c'est son point fort. C'est ce côté-là qu'il doit faire prévaloir auprès de tous les recruteurs. Et est-ce qu'il va pouvoir peut-être s'appuyer en NBA?
Ouais, totalement. Pour moi, c'est ça. C'est son point numéro 1, protection de cercle, que ce soit en équipe de France jeune, où il a joué 3 compétitions avec les Bleus, ou cette saison avec Peirce. En fait, sa simple présence dissuade l'attaque. Donc voilà, il est sous le panier, l'attaquant va réfléchir à 2 fois avant de savoir ce qu'il va faire. Et il ajoute à ça le contre. Donc c'est juste, c'est 2 points vraiment prédominants dans son jeu. Il va falloir vraiment qu'il capitalise là-dessus. Et c'est un joueur qui est toujours dans les meilleurs dans ce domaine, dans toutes les compétitions, dans moi lesquelles je l'ai vu. Donc c'est vraiment ce gros, gros point fort-là qui va lui faire gagner des minutes en NBA, j'en suis sûr.
Et puis ce qui est bien, c'est qu'il a des exemples pour s'inspirer entre Wemby, meilleur rookie, qui est extrêmement dissuasif, Rudy Gobert, 4 fois meilleur défenseur, qui est extrêmement dissuasif également. Je pense qu'il a de quoi s'inspirer, Alex.
Oui, oui, et puis bah, même son frère était quand même assez bien intéressant sûr. Là-dessus. Ils sont assez égaux au niveau de du physique, taille, envergure. Donc voilà, c'est... Je ne veux pas dire que c'est de famille, mais les jeunes sont très bons.
Tu as parlé de ses difficultés un petit peu plus près du cercle. Quels sont ses autres axes de progression, selon toi, pour le moment, à l'instant T?
Pour moi, il y en a 2. Le premier, c'est vraiment le tir. Loin, mais aussi près du cercle. Il doit continuer à travailler pour devenir plus consistant, notamment à 3 points. Cette année, c'est uniquement 28% en Australie, ce qui est... Pour un joueur de sa taille, 2m16, c'est quand même assez correct. C'est pas incroyable, mais c'est correct. Et la seconde, ça va être le maniement du ballon pour se rendre au panier et éliminer les défenseurs qui lui font face. Aujourd'hui, il n'y arrive pas toujours et il galère un peu à changer de direction quand il attaque le panier. Donc ça, c'est un vrai point faible à travailler. Après, le spacing NBA en saison régulière peut lui être bénéfique sur ça.
Il est encore très jeune, 18 ans, on l'a dit. Il a évidemment encore le temps d'étoffer son jeu et de s'adapter. Je ne sais pas si tu aimes faire cet exercice-là, mais à qui est-ce qu'on pourrait le comparer à l'heure actuelle, Alex Sarr, en NBA, selon toi?
Moi, je le projette plus dans un rôle, plus qu'un joueur. C'est celui d'Evan Mobley à Cleveland. Mmh. On le voit actuellement en play-off. C'est un joueur pareil, protecteur de cercle, qui va être un point d'ancrage défensif avec un rôle offensif plus limité de 3-4e option. Mais je pense que ça a vraiment ce potentiel pour devenir ce lieutenant, c'est vraiment cette deuxième option à terme. Un garçon capable d'apporter du scoring de près, de loin et de sa défense.
Est-ce que si on se projette un petit peu plus loin, selon toi, tu le vois arriver jusqu'à à être All-Star peut-être ? Ou alors justement, est-ce que son manque d'efficacité, entre guillemets, de productivité offensive peut lui faire défaut de ce côté-là ?
Moi, All-Star, c'est une projection que j'ai en tête.
Ouais.
Après, là, aujourd'hui, on parle d'un joueur de 18 ans.
Bien sûr.
Il va s'améliorer, j'en suis convaincu. Un staff NBA fait le travail en quelques mois, on l'a vu par le passé. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Pour moi, All-Star, c'est possible. C'est peut-être très haut, il n'y arrivera pas forcément, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est son potentiel maximum.
Et est-ce que si on revient à la draft, pour toi, est-ce que tu comprends le fait qu'il soit projeté parmi les trois premiers, voire numéro un, est-ce que c'est pas un peu trop pour lui ? Qu'est-ce que tu en penses de cette projection parfois en first pick pour Alexa ?
De par le corps qu'il a et le potentiel qu'il a, pour moi, c'est pas usurpé du tout. Mm-hmm. On parle d'un joueur de 2m16, on l'a assez dit sur cette présentation, qui est capable de défendre à l'intérieur, mais aussi sur certains extérieurs, sur du switch, sur les pick and roll. Ce qui n'est pas donné à tout le monde pour des joueurs de ce gabarit-là, qui est capable de s'écarter. Et voilà, juste l'amélioration du tir, mais ça va venir. Le tir, c'est quelque chose d'assez simple à travailler. L'une des choses les plus simples à travailler dans le basket, pour moi en tout cas. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Être top 3, top 5 de cette draft, c'est pas du tout usurpé.
Ok, parfait. Alors pour conclure, Manu, on va ressortir la boule de cristal que tu avais sortie pour Zachary Risacher. Je vais te reposer la même question. Dans quelle franchise, selon toi, est-ce qu'il faudrait qu'il atterrisse pour pouvoir exploiter au maximum son potentiel dans les premières années en NBA ?
Pour moi, il y en a deux, parce que c'est... Alors je ne sais pas si elles sont assez hautes dans les projections, normalement. C'est les Charlotte Hornets, c'est les Portland Trail Blazers, parce que c'est deux équipes avec lesquelles il sera entouré d'un vrai poste 5, potentiellement. Et ça peut vraiment l'aider à être le potentiel qui doit être dans l'évolution. Ça, pour moi, c'est parfait, parce d'être accompagné de ce poste 5, voilà, qui est un peu plus fixe sous le panier, qui ne s'écarte pas trop, c'est vraiment pour moi le style dans lequel il doit être. Donc à Hornets, c'est Mark Williams, et Portland, c'est DeAndre Ayton. Donc pour moi, c'est vraiment ce rôle-là. Pour moi, c'est deux contextes qui lui sont très, très favorables.
Vous l'avez compris, donc Alexandre Sarr, il va falloir le suivre de très, très près pour cette draft et également la saison prochaine en NBA. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos du média Envergure dans la description de cet épisode. Je vous encourage évidemment à aller les suivre sur les réseaux. Merci encore Manu pour cette présentation d'Alexandre Sarr. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très vite pour un nouveau Focus. D'ici là, portez-vous bien. Salut.